Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 99 avec Amel Aitouche.
Au bout de 2 mois, j'ai trouvé un poste de social media manager pour une entreprise française. Par contre, j'ai été licenciée au bout de 6 mois. Donc, quand tu te fais licencier, forcément, tu n'as pas de chômage, tu n'as aucune aide. Et ton travail à Dubaï dépend de ton visa. Donc, quand j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon visa. Je voyais aussi quelqu'un à l'époque qui m'a largué aussi du jour au lendemain et d'une manière pas très sympa. Donc là, tu t'es fait licencier, tu n'arrives pas à trouver de boulot et en plus, tu sais pas garder un mec. Honnêtement, je me suis sentie mais vraiment nulle, quoi. J'étais vraiment... franchement, j'étais pas bien. Et là, ma sœur m'a dit « Don't let a bad day make you think you have a bad life. » Ne laisse pas un mauvais jour te laisser penser que ta vie entière est nulle.
Dans cet épisode, je rencontre Amel Aitouche, experte en marketing digital et créatrice de contenu sur le web. Elle s'est fait connaître à travers sa chaîne YouTube Amel Talks. J'ai vraiment apprécié parler de sujets très importants et délivrer des vérités qui sont parfois difficiles à entendre, mais qui font partie de nos expériences de vie en tant que femme, sans me heurter à la police de la bien-pensance. Et vous allez voir qu'Amel se prête au jeu et fait preuve d'une très grande honnêteté et intelligence d'esprit, ce qui rend cet échange extrêmement intéressant et authentique. Vous allez notamment découvrir les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le monde de l'entreprise et les dommages collatéraux que ça peut engendrer, son point de vue sur la notion de sororité entre femmes qui peut parfois cacher une très grande hypocrisie, comment se poser les bonnes questions pour rester vraie et intègre malgré la pression du nombre de vues et d'abonnés. Vous allez également découvrir la face cachée de Dubaï et plein d'autres choses passionnantes sur les étapes clés de son parcours. Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible, s'abstenir. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus. Vous écoutez le Manal Show, le podcast pour apprendre toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite. Originaire de Lille, elle décide de quitter la France il y a 4 ans pour s'installer à Dubaï, certainement une des places les plus incontournables du moment. Inspirée par son nouvel environnement de vie, elle lance sa chaîne YouTube Amel Talks pour partager son expérience en tant qu'expatriée et montrer par la même occasion une facette méconnue de cette ville qui attire de plus en plus de monde. Subtil mélange entre chaîne de voyage et journal intime, ce qu'elle incarne surtout, c'est un lifestyle qui inspire aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes à adopter un nouvel état d'esprit plus aventureux pour se donner les moyens de leurs ambitions. Avec plus de 125 000 abonnés sur YouTube et Instagram et plus de 5 millions de vues, elle a réussi à identifier une niche où elle compte bien se faire une place de choix, mais vous allez voir que son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Spécialiste en marketing digital et créatrice de contenu, elle s'aventure également dans le monde de l'édition puisqu'elle vient de publier son tout premier guide sur la vie à Dubaï. Et c'est en duplex de la Marina qu'elle est avec moi aujourd'hui. Amel Aitouche, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Manal, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Alors, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais vous êtes réveillée hyper tôt ce matin pour quelque chose d'assez spécial. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait ?
Oui, alors ce matin, je me suis levée à 4h30 du matin. Donc, il faut savoir que je ne suis pas du tout une lève-tôt. Enfin, moi, je ne crois pas au miracle morning. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais par contre, il y a un truc que j'adore faire, c'est courir. Et ce matin, en fait, à Dubaï, ils ont organisé une course sur Sheikh Zayed Road, qui est l'autoroute emblématique de Dubaï. Ils l'ont fermée spécialement pour l'occasion. Et donc, j'ai été courir 10 km avec 120 000 personnes. Et le Cheikh Hamdan aussi, qui est le prince héritier de Dubaï. Et c'était un événement incroyable. Et se lever à 4h30 du matin, ça valait définitivement la peine.
Bravo en tout cas de l'avoir fait. Hein. Est-ce que le Cheikh Hamdan est dans votre réseau maintenant ou pas ?
Pas encore.
Pas encore ? C'est dommage.
C'est mon rêve. Ma sœur l'a rencontré. Ouais. Ma sœur l'a rencontré, elle a même une photo avec lui. Mais moi, je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de le rencontrer.
Alors, vous le savez, Amel, je commence tous mes entretiens avec la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ?
Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Quand je suis venue à Dubaï, en fait, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme vous l'avez dit. J'ai connu des hauts, des bas. Ça n'a pas été une installation hyper facile. Mais quand j'ai vu un peu le bout du tunnel, je me suis dit, mais tout ça, tout ce que j'ai vécu, je dois le partager. C'est important que les gens sachent. Et si mon expérience, elle peut bénéficier à certaines personnes, enfin, ce sera que du positif. Et c'est ça, en fait, qui va me motiver à continuer de faire ce que je fais et à me rendre épanouie, en fait. Donc, voilà pourquoi je fais ça, pour avoir un impact positif sur la vie des gens.
Alors, je l'ai dit dans la présentation, vous avez fait des études de marketing à Lille et puis vous avez décidé de quitter la France pour aller à Dubaï. Donc, changement radical de vie, vraiment à tous les niveaux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller là-bas?
Alors, moi, je suis allée à Dubaï pour la première fois en 2014 pour rendre visite à ma sœur qui venait de s'y installer. Moi, c'était juste pour des vacances que j'y allais et... Honnêtement, j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes avant qu'elle s'installe. Et je suis venue donc avec tous ces préjugés voir ma sœur. Et en fait, ma vision de Dubaï a complètement changé quand je suis arrivée ici. Donc, ma sœur était installée. À l'époque, elle vivait à Jibiyar, donc, qui est un des quartiers les plus touristiques de Dubaï, qui est en face de la mer. Donc, elle vivait dans une tour avec une piscine, une salle de sport en face de la plage. Elle vivait aussi sur une avenue où il y avait plein de restaurants, plein de cafés. Et je me disais, mais waouh, tu vas travailler la journée et les soirs et les week-ends, tu es en vacances, c'est incroyable. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce lifestyle. Et j'ai découvert qu'il y avait une vraie culture aussi à Dubaï, que les gens, en fait, profitaient de leur temps libre ici. Ils n'attendaient pas les vacances ou les week-ends pour faire des activités. Enfin, les vacances, en fait, c'était toute l'année, même si tu travaillais. Et c'est vraiment ce lifestyle, en fait, qui m'a plu. Et je me suis dit, en 2014, je me suis dit, mais j'aimerais vraiment vivre ici. Et j'ai fait en sorte que ça arrive.
Mais je tiens quand même à préciser une chose, Amel. C'est que vous êtes arrivée à Dubaï bien avant le phénomène des influenceurs.
Oui, c'est vrai.
Donc, j'ai connu
l'avant et l'après, c'est vrai.
Du coup, vous avez connu l'avant, l'après. Quel changement vous remarquez, vous constatez aujourd'hui?
Je pense que les influenceurs ont surtout ramené des touristes, c'est surtout ça. Et c'est arrivé aussi en même temps que le Covid. Donc, Dubaï a été un des premiers pays, une des premières destinations à ouvrir ses frontières aux touristes, malgré le Covid, ce qui a d'autant plus ramené des gens. Et c'est vrai que on va dire que beaucoup de Français, énormément de Français sont venus, ont découvert Dubaï. Ça a plu à certaines personnes, ça a pas plu à d'autres. Mais bon, après, pour moi, il en faut pour tout le monde. Dubaï n'appartient à personne. C'est la ville de tout le monde. C'est un peu Babel. Dubaï, pour moi, c'est vraiment ma maison. C'est vraiment un pays dans lequel, enfin une ville, un pays dans lequel je me sens pas étrangère, parce qu'en fait ici tout le monde est étranger, donc on oui. ressent pas ça.
Alors c'est vrai que vous avez décidé de vous installer là-bas. J'aimerais savoir comment ça s'est passé au départ. Est-ce que vous avez trouvé du travail facilement?
Alors oui, au départ, j'ai trouvé assez facilement. Donc, au bout de 2 mois, j'ai trouvé un poste de social media manager pour une entreprise française. Et 2 mois, c'est rapide. Vraiment, de trouver en 2 mois à Dubaï, c'est très rapide parce que une recherche d'emploi à Dubaï, c'est en moyenne entre 3 et 6 mois. Donc, j'ai trouvé très rapidement. J'ai été embauchée très rapidement. J'ai passé les entretiens. On m'a embauchée vraiment tout de suite. Par contre, j'ai été licenciée au bout de 6 mois. Donc, du jour au lendemain, sans préavis, on m'a remerciée. Et là, par contre, je m'y attendais pas. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à voir quels étaient les inconvénients de vivre à Dubaï. Donc, quand tu te fais licencier, donc forcément, tu n'as pas de chômage, tu n'as aucune aide. Et ton travail à Dubaï dépend de ton visa. Donc, quand j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon visa. Donc, j'ai dû repasser sur un visa touristique. Et voilà, là, on se rend compte que ce sont pas les mêmes aides qu'en France. Là, si t'as pas des économies, si t'es pas hébergé ou voilà, si tu peux pas subvenir à tes besoins, c'est retour en France.
C'est un peu la méthode américaine, hein, j'ai l'impression. On peut se faire licencier comme ça du jour au lendemain. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez pourquoi vous avez été licencié?
Pourquoi j'ai été licenciée? Alors, je pense que les personnes qui m'avaient recrutée avaient un peu du mal à savoir ce qu'elles attendaient réellement en termes de social media, en termes de création de contenu pour leur marque. Et je pense que voilà, ce qui a fait qu'on m'a licenciée, ça a été un manque de compréhension des attentes qu'ils avaient et de moi, ce que je pouvais proposer. Mais je les remercie vraiment de m'avoir licenciée. Thank God. Parce que de toute façon, je n'aimais pas ce que je faisais. Je n'aimais pas travailler pour cette entreprise. Et s'ils ne m'avaient pas licenciée, ben, je n'aurais pas fait tout ce que je fais aujourd'hui.
Ok, donc je vois que ce n'est pas une grande perte pour vous. Mais comment ça s'est passé concrètement? Ils vous ont dit « Ok, Amel, merci beaucoup, mais ce n'est pas la peine de revenir demain ?»
Alors, comment ça s'est passé? Je m'en souviens très bien. Donc, c'était un jeudi midi. Donc, en fait, les week-ends à Dubaï, c'est les vendredis et samedis. Donc, jeudi, c'est l'équivalent du vendredi en France. Un jeudi midi, je reçois un email du CEO à midi qui me dit « Bonjour Amel, je voudrais te voir dans mon bureau aujourd'hui à 15h ». Je reçois un mail du CEO un jeudi midi à 15h, la veille de la fin de ma période d'essai.
Déjà, c'est pas bon signe.
Voilà. Et du coup, bah, j'ai été dans son bureau à 15h et il m'a dit, bon, Amel, on va pas continuer avec toi. Voilà. Donc, il m'explique les raisons. Donc, nous, on attendait ça au niveau des réseaux sociaux. On n'a pas pu trouver d'entente entre les propositions que tu nous as faites et ce que voulaient les fondateurs. Donc, voilà. Merci. Au revoir et bonne chance.
Waouh. OK. Voilà. Mais du coup, vous étiez dans quel état d'esprit en sortant de ce rendez-vous?
Waouh, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, c'est comme si on se faisait larguer. Hein. Et c'est même pire parce qu'en fait, moi, je ne l'avais jamais vécu, me faire licencier. Et comment je me suis sentie? Honnêtement, je me suis sentie mais vraiment nulle. Quoi. Je me suis dit, bah, si ils m'ont licenciée, c'est parce que je ne sais pas faire mon travail, c'est parce que je suis nulle. J'étais vraiment... Non, franchement, je n'étais pas bien. Et surtout qu'après, en fait, la période qui a suivi... pendant 7 mois, en fait, j'ai cherché du travail et j'ai pas réussi à trouver de job vraiment qui me convenait. Toutes les offres que j'avais, c'était soit des trucs qui me correspondaient pas du tout ou les salaires étaient trop bas, en fait. On m'a même proposé un stage non rémunéré alors que j'avais 30 ans, 6 ans d'expérience.
Ah ouais.
Donc non, franchement, ça n'a pas été une période évidente parce que c'est une période... Ben, tu te fais licencier et en plus derrière, tu passes des dizaines et des dizaines d'entretiens, tout le monde te dit non et personne ne veut t'embaucher, bah, ton estime de soi, elle en prend un coup et tu te dis que bah oui, bah, si personne ne veut me recruter, c'est parce que je suis nulle et que je ne sais pas faire mon travail.
Donc, la question du retour en France s'est posée, j'imagine.
Oui, je voulais retourner en France. En fait, j'ai voulu retourner en France parce que je voyais aussi quelqu'un à l'époque qui m'a largué aussi du jour au lendemain.
Ah bah d'accord.
Pas très...
Tout arrive en même temps.
Ouais, et d'une manière pas très sympa. Donc là, tu t'es fait licencier, t'arrives pas à trouver de boulot et en plus, tu sais pas garder un mec. Bon, qu'est-ce que tu...
Vous savez ce qu'on dit, Amel, hein, les problèmes volent toujours en escadrille.
Donc, j'étais pas bien et je voulais absolument rentrer en France. Et là, ma sœur m'a dit quelque chose. Je me souviens ce jour-là parce que j'étais vraiment pas bien. Et ma sœur m'a dit « Don't let a bad day make you think you have a bad life. » Ne laisse pas un mauvais jour te laisser penser que... ta vie entière est nulle. Donc, je suis restée, j'ai repris du poil de la bête. Donc, je me suis remise à chercher un emploi et j'ai retrouvé un emploi où j'ai démissionné après. J'ai eu beaucoup de mal à m'entendre avec la founder, la CEO de la boîte. Je suis restée 9 mois et en fait, c'était pas du harcèlement moral, mais c'était quand même... C'était quand même des petits pics lancés au quotidien, etc., qui faisaient que je me suis dit que non, je ne pouvais pas rester.
Il y a un truc dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, Amel, dont on entend beaucoup parler aussi ces derniers temps, hein, notamment dans les podcasts, les chaînes YouTube, les trucs comme ça, c'est ce principe de sororité. Et c'est vrai que moi, quand j'entends ça, ça me fait doucement sourire. Parce que cette sororité, bah, j'aurais bien aimé la rencontrer un de ces quatre un jour. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on me la présente un jour, juste pour lui serrer la main. Parce que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie, cette sororité, cette solidarité entre femmes. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Vous en pensez quoi? Et comment ça se passe concrètement, les relations entre femmes à Dubaï? Est-ce que vous ressentez cette solidarité, cette sororité dont on parle tant?
Oui et non. Je la ressens. Alors, dans le monde du salariat ici, je ne l'ai jamais ressenti. C'est chacun pour soi. Femme ou homme, c'est un peu chacun pour soi. Donc ça, clairement, dans le monde du salariat, je ne l'ai jamais ressenti. Après, il y a le monde, on va dire, personnel, donc les relations amicales. C'est pareil ici, les relations amicales, il peut y avoir beaucoup de jalousie parce que beaucoup de femmes sont célibataires et sont ici pour trouver quelqu'un. Donc voilà, si elles peuvent se tirer dans les pattes, elles le font. Et par contre, là où je trouve qu'il y a de l'entraide et vraiment une solidarité féminine, à Dubaï, c'est dans l'entrepreneuriat féminin. Et ça, je le vois avec mon entourage. Donc, j'ai plusieurs copines qui sont entrepreneurs ici. Ma sœur, je vous le disais tout à l'heure, elle organise des séminaires sur l'entrepreneuriat féminin ici. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes, girl boss avec un parcours hyper impressionnant, hyper inspirant. Et toutes celles que j'ai rencontrées ici, vraiment, elles m'ont énormément aidée. Et il y a une vraie entraide entre nous. Mais je dirais aussi, et bon, ça c'est encore autre chose, mais surtout dans la communauté franco-maghrébine, il y a une vraie entraide à Dubaï.
D'accord. Donc c'est bien ça, c'est qu'il y a une réelle hypocrisie, j'ai envie de dire, dans cette notion de sororité dans le monde du salariat, mais c'est pas quelque chose que vous retrouvez forcément dans l'entrepreneuriat. Bon, moi, de mon point de vue personnel, en tout cas avec mes expériences personnelles, j'ai rencontré beaucoup d'hypocrisie aussi dans l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat féminin en France. D'ailleurs, il y a quelque temps, c'était vraiment à la mode oui. De créer des réseaux entre femmes, des choses comme ça, qui a été initié par Sophia Amoroso, l'autrice de Girl Boss, justement. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un concept qui est très théorisé, mais qu'on n'arrive pas à retrouver concrètement dans la vie réelle.
Il y a un autre secteur où il n'y a pas d'entraide. Enfin, il peut y avoir aussi, je trouve, beaucoup de jalousie et pas du tout d'entraide. C'est dans l'influence. Les influenceuses entre elles, c'est. Je crois que c'est le pire, les influenceuses entre elles. Alors là, c'est un autre level d'hypocrisie.
Pourtant, les influenceuses, c'est quand même les plus féministes dans leur discours, finalement.
Oui, mais ce sont les plus hypocrites. Je pense que beaucoup d'entre elles, et c'est même pas je pense, je le sais parce que pour avoir côtoyé certaines d'entre elles et connaître un peu, on va dire, les backstage, c'est juste, on va dire, pour les apparences qu'elles sont amies. C'est juste justement pour avoir plus de likes, plus d'engagement, pour piquer les communautés des uns et des autres qu'elles font ça, en fait.
Donc, c'est du bullshit, tout ça ?
Pas tout le monde. Je dis pas tout le monde, mais la plupart, ouais, c'est du bullshit.
Vous n'avez jamais été tentée, vous, justement, de parler de ce genre de thématique en vous disant, vu que c'est tendance, peut-être que ça m'amènera plus de vues, plus de likes, en toute honnêteté.
Moi, j'ai jamais voulu faire du contenu pour faire des vues ou faire des likes. Je fais toujours du contenu qui, déjà, moi, me plaît. C'est-à-dire, je vais tourner une vidéo ou un vlog sur un sujet qui me plaît. Ça me fait pas chier de le faire. Ça m'intéresse pas de faire du mainstream ou de faire de la masse, du divertissement, parce que ça fait plus de vues ou plus de likes. Si je voulais faire plus de vues, plus de likes, je me mets en bikini tous les jours devant le Burj Al Arab et c'est fait. Mais c'est pas ça qui m'intéresse.
Et là, ça explose. Et en plus là, de ça explose, on met le hashtag féministe, hashtag sororité, hashtag monde des bisounours. Et là, vraiment, on est au top. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir une femme comme vous, Amel, parler de ces choses-là de manière décomplexée, surtout dans la période actuelle, dans la période qu'on vit, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Et c'est vrai que c'est le genre de discours qu'on peut entendre un petit peu en off, comme ça, en secret, mais les gens n'osent pas forcément le dire à voix haute. Alors après plusieurs échecs, vous avez nourri une forme de résilience. Est-ce que quand on ne trouve pas de job, justement, ça nous donne l'envie de se créer son propre job ?
C'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Avec toutes ces expériences négatives, je ne sais plus comment m'est venue l'idée de créer une chaîne YouTube. Enfin, je me suis juste dit un jour, ce serait quand même bien que je partage tout ça, tout ce que j'ai vécu. Comment je pourrais le partager ? Un blog ? Non, un blog en 2019, plus personne fait ça. Instagram, c'est pas assez powerful pour partager ce genre d'expérience. C'est comme ça que j'ai pensé aux vidéos, en fait, et qu'est venue la chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'au début, encore une fois, j'avais des pensées limitantes. Je me suis dit, non, mais je vais pas pouvoir être capable de m'exposer comme ça sur YouTube pour parler de moi, pour révéler des choses personnelles. Et qu'est-ce que les gens vont dire ? Qu'est-ce que ma famille va dire, surtout ? Moi, j'avais surtout peur de ça, en fait, de ce que ma famille, ce que mes parents, ce que ma sœur allaient penser. Et honnêtement, si j'avais pas eu la validation et l'aval de ma famille, je pense que je l'aurais pas fait. Et quand j'en ai parlé à ma sœur, du coup, donc c'est la première personne à qui j'en ai parlé, je dis « Ouais, Et vraiment, moi, je pensais que ma sœur allait me dire « Mais non, fais le pas, tu vas te taper la honte, pourquoi tu t'exposes ?» Vraiment, parce que ma sœur, c'est quelqu'un de très, très discret. Elle, elle n'aime pas du tout les réseaux sociaux, elle ne s'expose pas. Et du coup, moi, je pensais qu'elle allait me remballer et dire « Non, mais oublie !» Et en fait, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit « Mais c'est une super idée !»« Mais oui, mais vas-y, fais-le !» Et mon anniversaire, c'était un mois plus tard. Ma sœur et des amis m'ont offert une caméra pour que je puisse me lancer sur YouTube. Et pareil, quand j'en ai parlé à mes parents, mes meilleurs amis, ils m'ont tous dit « Mais vas-y, lance-toi, de toute façon, t'as quoi à perdre ?» Bon, juste ma réputation, mais...
Est-ce que c'est important pour vous la validation de votre famille? Parce que vous savez, en général, les gens qui entreprennent vous disent que il faut surtout pas écouter en fait son entourage. Il faut faire ce qu'on a envie de faire.
Le truc, c'est que ma famille, je sais que ma famille, ils sont justes. Mes parents et ma sœur, ce sont des gens qui sont justes et je sais que eux, ils veulent mon bien. Ils veulent que je réussisse vraiment. Et je savais que ce qu'ils allaient me dire, ça aurait du sens. Que de le faire ou de pas le faire, j'aurais écouté dans tous les cas. Peut-être que oui, peut-être qu'au final, je l'aurais quand même fait parce que je suis quand même quelqu'un d'assez têtu et qui va au bout de ses idées. Mais vraiment, le fait, en fait, qui m'ait soutenue, ça a signifié beaucoup de choses pour moi et c'est vraiment ça qui m'a motivée et qui m'a encouragée à me lancer et à ne jamais lâcher, en fait. Parce que mes parents et ma sœur, au final, ce sont mes premiers fans. Ils ratent jamais une de mes vidéos. Enfin, ils savent tout ce que je fais, etc. Donc, c'était quand même vraiment important pour moi de rendre mes parents fiers, en fait, qu'ils ne soient pas là à dire « ma fille, elle est sur YouTube, mais voilà, elle fait des trucs, on ne veut pas en parler. »
Vous avez totalement raison, Amel. Moi, je suis vraiment d'accord à 100%, surtout qu'il s'agit de votre image. C'est une image que vous mettez sur Internet, accessible et disponible pour tous. Donc, il me semble en effet important d'avoir des valeurs, d'avoir un cadre, d'avoir des personnes aussi de confiance qui sont là pour vous, mais qui sont là vraiment sincèrement pour vous, qui vont vous dire les choses pour votre bien. Et peut-être que c'est ça la différence finalement. Quand on est accompagné par une agence, bon, il n'y a que le côté un peu financier, marketing, commercial qui rentre en compte. Alors que quand on est entouré par, son mari, sa sœur, ses parents, c'est différent. Le discours est différent parce qu'il est bienveillant. Ces gens-là vous veulent du bien. Et je crois que c'est ce qui est vraiment important en fait à prendre en considération, notamment pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont eux-mêmes peut-être un média digital et qui mettent leur image comme ça sur Internet. Vraiment, faites attention parce que sur le moment, on fait des choses, mais ces choses-là restent, ça ne nous appartient plus et on peut avoir des grands regrets. Et je trouve que voilà, en tout cas, maîtriser son image, c'est très important pour moi. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Je suis complètement d'accord.
Alors, vous avez quand même pas mal tâtonné avant de trouver votre niche, puisque vous avez parlé du fitness, de lifestyle, et maintenant Dubaï, que vous avez décidé d'explorer à fond. Est-ce que vous constatez, Amel, que c'est plus difficile aujourd'hui de se faire un nom sur le web?
C'est très difficile.
C'est difficile.
C'est très difficile. Et le plus difficile, c'est surtout dans la durée, en fait, de garder un rythme de publication régulier, etc. Parce que je pense que vous le savez, parfois, on a des vidéos qui vont faire beaucoup de vues. Il y en a qui vont faire moins de vues. Il y a des vidéos où on va passer énormément, énormément de temps. Ça ne va pas faire le nombre de vues escompté. Et à cause de ça, on peut vraiment facilement se décourager et abandonner et juste arrêter de publier. Et c'est vrai que je trouve que c'est très difficile aujourd'hui d'exister sur le web parce que déjà, il y a énormément de compétition. Aujourd'hui, c'est très facile de se lancer. Il suffit juste d'avoir un téléphone, de faire une vidéo et de se lancer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les algorithmes des réseaux sociaux qui ne nous aident pas, qui vont toujours privilégier les gens mainstream, les gens qui font le plus de vues et le plus de likes. Donc ça, je parle surtout de Instagram, où c'est vraiment un média où c'est vraiment difficile de percer aujourd'hui. YouTube, je trouve que quand on fait de la qualité et qu'on est consistant et régulier, on a plus de chances que Instagram, par exemple. Mais YouTube, c'est dur. C'est dur parce que ça demande énormément de travail. Moi, une vidéo, par exemple, ça me demande 2 jours de travail. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a parfois ça va faire des vues, parfois ça va pas faire de vues. Et quand ça fait pas beaucoup de vues, on est là, on est déçu, etc. Mais Moi, dernièrement, j'ai décidé de vraiment changer mon mindset par rapport au nombre de vues. C'est vrai que ça m'atteignait un peu à un moment donné. Je me disais, ah, mais je ne fais pas les vues que je veux, etc. Et en fait, j'ai fait quelques meet-up récemment. Donc, j'ai fait un séminaire où j'ai pu rencontrer des abonnés. Quand j'ai lancé mon guide, j'ai fait aussi un meet-up avec mes abonnés. Et en fait, les gens m'ont dit, mais en fait, Amel, tu te rends pas compte, ce que tu fais, c'est génial. Donc, moi, c'est grâce à toi que je suis venue à Dubaï. J'ai vu tes vidéos. C'est grâce à toi que j'ai pu faire ça. Des filles qui me disent, c'est grâce à toi que je me suis mise à la course à pied. C'est grâce à toi que j'ai plus confiance en moi. Et en fait, j'entends ça, je me dis, mais même si tu fais 1000 vues par vidéo, si juste il y a une personne, ça lui a changé sa vie, bah, ça valait la peine de le faire, en fait. Donc, c'est, voilà, comme ça aujourd'hui que j'arrive à vraiment me détacher du nombre de vues. Je me dis, même si ça fait que 1000 vues, c'est 1000 personnes. Déjà, 1000, c'est quand même beaucoup. Je veux dire qu'il y a 1000 personnes qui voilà, regardent notre vidéo du début à la fin et qui sont vraiment intéressées par ce qu'on dit. Donc, voilà, j'essaie vraiment de me détacher du nombre de vues et vraiment de me focus plutôt sur l'impact que j'ai sur la vie des gens. Et je sais que voilà, j'ai un impact dans plusieurs domaines, pas que Dubaï. Et c'est ça, en fait, qui me permet, en fait, de continuer sur YouTube et de ne pas arrêter, en fait.
Mais je pense que le fait d'échanger avec son audience, avec sa communauté, c'est hyper important. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ne le font pas forcément, hein. Notamment ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, parce qu'ils ne peuvent plus gérer, parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils n'ont plus envie, tout simplement. Vous savez, après, on est dans une autre sphère, hein. Quand on a 2 ou 3 millions d'abonnés, c'est plus pareil. Je pense qu'on n'a plus le même rapport avec les gens. Et c'est vrai que moi, il y a quelques temps, je m'étais lancé un challenge. Et depuis, eh bien, je fais en sorte, en tout cas, d'appeler un auditeur du Manal Show par semaine pour parler avec lui ou avec elle, voilà, du ressenti, de ce qu'il fait dans la vie, de pourquoi il écoute le Manal Show, quelle personne il aimerait avoir ou écouter dans le podcast. Ce genre de choses. Et en fait, vous avez raison, Amel, ça change tout. Ça change tout parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on se rend compte que derrière ces numéros, bah, y a des gens, il y a des individus, en fait, qui nous écoutent. Et en effet, on peut avoir un impact, bon, à chacun à notre niveau, sur la vie de ces gens-là. Et je pense que c'est important de se reconnecter à ça dans un monde qui est ultra digitalisé, c'est de revenir à des choses, des valeurs très simples qui sont, en fait, finalement, échangées et communiquées directement avec les gens.
C'est complètement ça. Mais je trouve ça génial que vous appeliez un auditeur une fois par semaine. C'est, ouais, c'est une bonne idée. Top. Je devrais penser à le faire avec un de mes abonnés.
Alors, votre vidéo best-seller, c'est « Vivre à Dubaï, avantages et inconvénients », qui a fait, il me semble, plus de 630 000 vues. Énorme. Est-ce que c'est comme ça que vous avez réussi à identifier votre niche ?
Alors non, honnêtement, il m'a fallu du temps quand même parce que j'ai testé plusieurs trucs. Je sais que voilà, mon sujet principal sur ma chaîne YouTube, c'est l'expatriation à Dubaï, mais je veux pas me fermer à parler uniquement de Dubaï. Donc c'est pour ça que parfois je peux avoir du contenu sport, du contenu vlog, voyage, parce que j'adore aussi voyager. Donc voilà, Dubaï c'est le sujet principal, mais je suis pas uniquement fermée à ça. Et c'est vrai que j'ai pu percer grâce à la niche de Dubaï aussi.
Mais alors justement, est-ce qu'il ne faut pas avoir une niche c'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs dire, hein, les marketeurs nous disent à chaque fois, il faut trouver une thématique, une niche dans laquelle vous pourrez faire votre place. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut faire justement ?
Si, bah, ma niche, c'est Dubaï. Mais après, en fait, une fois qu'on a notre niche, là, on peut, si on veut, aller sur d'autres sujets, etc. Après, encore une fois, moi, je ne fais pas du contenu parce que je veux augmenter mon nombre de vues, je veux augmenter mon nombre d'abonnés. Je fais du contenu qui me plaît avant tout et qui plaît bah, à ma communauté d'aujourd'hui. Et oui, si quelqu'un me demande « Ok, je veux aller sur YouTube demain, comment percer ?» Je lui dis « Il faut que tu aies une niche. » Comme moi, j'ai fait, je suis arrivée avec Dubaï ou comme en 2013, je suis arrivée avec du running. Mais après, pour moi, je pense qu'il ne faut pas se fermer non plus à faire qu'un seul sujet, une seule thématique, parce que ça peut aussi lasser les gens. Et je pense qu'il faut savoir renouveler son contenu.
Oui, et puis de toute façon, Dubaï aujourd'hui, c'est une tendance. Et comme toutes les tendances, elles s'essoufflent. Et à un moment donné, bah, qu'est-ce qu'on fait après, quand ce jour arrive ?
Honnêtement, je pense que c'est que le début, là.
Ah oui, il y a encore de belles années
Oui, complètement, complètement. Ah, vraiment, ça, j'en doute vraiment pas. Là, j'entends là, le nombre de cas Covid qui est en train d'augmenter en France, les rumeurs de...
On sent le prochain confinement. Ouais. Alors, Amel, vous avez fait des études de marketing et du coup, j'aimerais beaucoup savoir comment ça vous aide dans votre business et qu'est-ce que vous avez dû réapprendre. Est-ce que ça sert à quelque chose, les études marketing ?
Honnêtement, mes études, je vais vous dire la vérité, ça m'a juste appris la discipline et la rigueur. Ça m'a appris à rendre mes devoirs à l'heure, à apprendre des choses dans un temps limité. Ça m'a appris à être à l'heure, enfin ce genre de choses. Donc une rigueur, une discipline, mais ça m'a pas préparée pour le monde du travail. Le monde du travail, quand je suis arrivée, je connaissais absolument rien.
C'est là où je veux en venir, Amel. Finalement, je pense que vous avez beaucoup plus appris en lançant votre chaîne YouTube et votre compte Instagram et en faisant tout ce que vous faites aujourd'hui que ces années passées à l'école.
Ah, complètement, oui, parce que j'ai appris toute seule, en fait, parce que je me suis intéressée et ça se renouvelle constamment. Donc, même si on nous apprend un truc à l'école, une semaine après, c'est out to date. Donc, il faut réapprendre. Donc, il faut constamment se mettre à la page. Même moi, je ne suis pas à la page sur tout. Il y a des trucs, il y a des domaines que je ne connais pas très bien dans le monde du digital parce que ça évolue trop vite. Donc, moi, je pense que quand on veut bosser dans le marketing digital, il faut se focus sur un secteur, un domaine du marketing digital. On ne peut pas tout faire, c'est pas possible de toute façon. On peut pas être spécialiste en tout. Et en tout cas, l'école, non. Moi personnellement, c'est pas ça qui m'a formée.
Oui, la pratique, de toute façon, c'est la meilleure école. Est-ce que vous avez une stratégie pour votre chaîne YouTube? Et si oui, laquelle?
Honnêtement, alors je devrais pas, hein, parce que je suis quand même consultante en marketing digital, je devrais pas dire ça, mais non, je n'ai aucune stratégie pour ma chaîne YouTube.
C'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Moi déjà, YouTube, c'est pas mon métier. Mes revenus ne dépendent pas uniquement de YouTube, et ça, je l'ai toujours dit, je veux pas vivre uniquement de l'influence, parce que si on vit uniquement de l'influence, on dépend des annonceurs, on dépend de nos partenariats. Donc, nos partenariats définissent notre contenu. Donc, notre contenu n'est plus ce qu'il était, ce n'est plus ce qu'on avait créé au départ. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment mis un point d'honneur dès le début à pas me laisser, on va dire, influencer par les annonceurs.
Vous faites pas de partenariat avec des marques?
Si, si, par contre, j'en fais. C'est juste que j'en fais uniquement. Donc, deux règles, on va dire. Donc, la première, c'est que forcément, le produit ou le service me plaise et c'est quelque chose dans la vie que je pourrais moi-même acheter sans qu'on me l'ait offert. La deuxième chose, que ça plaise aussi à ma communauté.
Et que ça ait on est d'accord, Amel, que ça, c'est le genre de discours qu'on entend de la part de toutes les influenceuses. C'est normal de dire ça. On ne va pas dire qu'on a accepté le cachet parce que c'est super bien payé et parce qu'on aimerait bien finalement s'acheter la nouvelle paire de Yeezy qui va sortir le mois prochain. Vous voyez ?
Oui, bien sûr. Après, il y a des choses, je peux comprendre aussi que parfois, il y a des montants pour certaines influenceuses qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas les refuser. Et après, c'est aussi le temps passé sur les vidéos, etc. Mais,
vous en refusez beaucoup des partenariats ?
Oui, j'en refuse beaucoup. Déjà, tout ce qui est dropshipping, ça, en fait, c'est important. Enfin, pour moi, les influenceurs que je suis, c'est important pour moi qu'ils aient une certaine éthique concernant leur partenariat et qu'ils acceptent pas tout et n'importe quoi.
On est d'accord. Mais du coup, c'est quoi le dernier partenariat que vous avez refusé ? L'épisode n'est pas encore fini, il vous reste encore plein de choses à découvrir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous et qui m'a été inspiré par le travail de fond qu'on réalise depuis plusieurs années à travers ce podcast. J'aimerais d'abord vous poser une question. Quand vous écoutez les histoires de toutes ces personnalités aux parcours atypiques, qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a encore tellement de choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite. Alors comment aller plus loin ? La réponse nous est apparue comme une évidence, en créant notre propre école alternative. Et cette école, elle s'appelle Studi. Notre objectif, c'est de vous aider à développer des connaissances essentielles en ayant accès aux meilleures idées et concepts résumés en 5 minutes par jour. Une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à plus de 100 cours dans 13 catégories différentes, disponibles dans l'application Studi. Et ce sont des cours délivrés par les meilleurs experts et leaders dans leur domaine. Donc, vous allez apprendre aux côtés de nos mentors et vous inspirer de toutes ces personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et c'est pas du bullshit. On vous vend pas du rêve avec des trucs inatteignables. Studi, c'est du concret, avec des exemples et des actions à mettre en place. Et surtout, des concepts qui vont vraiment vous aider à relever de nouveaux défis et devenir meilleur dans tous les aspects de votre vie. Alors si vous aussi vous partagez, tout comme moi, cette idée qu'il faut se donner les moyens d'apprendre toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant essentielles à notre réussite, Studi est définitivement fait pour vous. Pour recevoir vos 3 premiers cours gratuits, rendez-vous sur gostudi.com et cliquez sur le petit carré jaune. Recevez vos 3 premiers cours gratuits, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir le concept et de vous faire votre propre idée. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Ok, maintenant je vous laisse découvrir la suite de mon entretien. Bonne écoute! Mais du coup, c'est quoi le dernier partenariat que vous avez refusé?
Que j'ai refusé, c'est pour une formation. Une formation, je crois, dans le marketing digital. Donc, ils voulaient que... Ah,
bah pourtant, ça aurait pu être intéressant pour vous.
Oui, mais en fait, j'ai regardé le contenu de la formation et je trouvais qu'il n'était pas assez qualitatif. Donc, je ne voulais pas associer mon image à ça parce que c'était un certain coût quand même pour les gens qui participaient à la formation. Et du coup, j'ai regardé le contenu et je me suis dit non, je ne peux pas associer mon nom à ça. Enfin, moi, en plus, je suis consultante en marketing digital, donc je connais... c'est pas quelque chose.
Vous savez de quoi vous parlez.
Donc ouais, j'ai refusé parce que je me suis dit, bah si les gens ils achètent ça et que ils vont rien apprendre vraiment derrière, donc je peux pas leur faire perdre de l'argent par rapport à ça.
Alors Mel, vous avez travaillé pour différentes entreprises, hein, vous nous l'avez dit, et puis vous avez même démissionné. Comment vous payez vos factures maintenant?
Alors, j'ai des clients pour qui je fais de la création de contenu, je leur fais leur stratégie sur les réseaux sociaux, donc c'est ça qui me fait vivre aujourd'hui.
Donc, à votre compte?
Oui, je suis à mon compte. Donc, moi, j'ai ma société ici. Donc, j'ai une société en free zone donc, qui me permet de facturer mes services de consulting sur cette société.
D'accord. Et alors, ça paye bien d'être consultant marketing digital à Dubaï?
Ça paye bien si on prend beaucoup de clients et qu'après, on n'a plus de vie sociale. Là, ça paye très, très bien.
Ah, donc c'est comme partout, en fait.
Oui. Mais après, moi, je suis pour avoir une vie épanouie, une vie sans stress. Je prends peu de clients. Actuellement, j'ai un seul client et je ne veux pas en avoir d'autres parce qu'il y a de très gros enjeux avec ce client. Donc, on refait toute sa stratégie social media.
Et ça vous suffit?
Ça me suffit, oui.
Donc, ça veut dire qu'il paye bien, le client?
Oui, il paye bien, ça va.
Okay. C'est un bon client, alors. Faut le fidéliser.
Les clients qu'on veut garder. Et après, voilà, j'ai aussi ma chaîne YouTube qui, mes vidéos sont monétisées. Donc, ça me fait un complément de revenus. J'ai mon guide aussi que j'ai sorti.
Oui.
Qui me rapporte aussi des revenus. Et mes partenariats, parce que je fais quand même, en moyenne, je pense que je dois faire 2 partenariats par mois, 2-3 partenariats par mois. Donc, tout ça me permet d'avoir des revenus à Dubaï.
Et vous avez besoin de quelle somme d'argent mensuel pour entretenir votre niveau de vie à Dubaï?
Pour entretenir mon niveau de vie, alors je vais vous dire pour payer mon loyer, pour mes factures, mes sorties, etc. Il me faut à peu près 20 000 dirhams pour ça.
20 000 dirhams, ça fait combien en euros?
Ça fait à peu près 5 000 euros.
5 000 euros, d'accord. Et vous envisagez quel genre de montant de revenus où vous allez vous dire à un moment donné, ok, là c'est bon, je suis bien, j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé?
Alors, je pense qu'on est humain, donc on ne sera jamais satisfait, même si demain je gagne 25 000 euros par mois, j'en voudrais 50 000, parce que mon niveau de vie et mes dépenses vont augmenter. Moi, ce que je rechercherai toujours, c'est la liberté financière. C'est juste le fait de pouvoir me dire que, de pas être stressée à la fin du mois, de me dire, voilà, j'ai mon loyer, il est payé, mes factures sont payées, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai pu voyager, j'ai pu m'acheter le sac que je voulais. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas le fait d'avoir un certain montant, parce que je pense que quand on se dit qu'on veut un montant, après on rentre dans un engrenage et c'est pas ce que je recherche. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est plus la liberté financière et le fait de pas être stressée à la fin du mois.
Et ça commence à combien, la liberté financière?
Je vous l'ai dit, chez moi, elle commence à 20 000 dirhams.
Donc 5 000 euros, est-ce que vous les faites aujourd'hui, les 5 000 euros?
Oui, je les fais, oui.
D'accord, donc vous êtes satisfaite?
Oui, après, comme je l'ai dit, on est des éternels insatisfaits. On veut toujours plus. Mais non, après, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est j'ai besoin de 20 000 dirhams pour vivre. Après, il y a des mois, je gagne moins, il y a des mois, je gagne plus, mais j'ai besoin de 20 000 vraiment pour vivre. Avec mes dépenses, avec mon lifestyle, mon objectif, ma target, c'est d'avoir minimum 20 000 dirhams tous les mois.
Et alors, quelle est la part de votre business qui vous apporte le plus d'argent aujourd'hui ?
C'est mon client qui me rapporte le plus.
En termes de pourcentage, ça s'élève à combien ?
Vous posez beaucoup de questions, hein ?
Ouais. C'est mon métier dans ce podcast, je pose des questions.
La part, c'est une bonne part, une très bonne partie.
Une bonne partie, ok. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de parler d'argent avec vous, Amel. Et justement, j'ai l'impression que l'argent n'est pas du tout perçu de la même façon à Dubaï et en France. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est intéressant à évoquer avec vous. Est-ce que, justement, le fait de vivre là-bas, ça a changé quelque chose dans votre mentalité et dans votre rapport à l'argent ?
L'argent est beaucoup moins tabou ici. Ça, c'est vrai. On n'a pas de mal à dire voilà, combien on gagne, combien on touche, etc. En plus, le fait qu'il n'y ait pas d'impôts, le fait qu'on soit, on a un mindset vraiment différent par rapport à l'argent. Mais je pense qu'en tant que Français, on a toujours, même moi, j'ai toujours un peu ce petit truc où j'ai
du mal. Ouais, c'est ça. C'est pas tabou, mais c'est encore un peu tabou dans votre bouche. Hein.
Voilà, bah parce que c'est des choses qui sont encore un peu, qu'on va dire, je suis en train de me construire encore financièrement, donc c'est pour ça que je préfère pas révéler certaines choses. Par contre, je révélerai le jour où, voilà, je serai un petit peu mieux établie dans ce que je fais, mais...
C'est quelque vous chose que je respecte beaucoup. Totalement. Et détendez-vous vraiment, Amel, à ce sujet-là, parce que nous, on parle d'argent de manière très décontractée et facilement dans ce podcast. C'est quelque chose que je fais avec pratiquement tous mes invités.
Moi, mon objectif, c'est pas de rester consultante en marketing digital, c'est vraiment d'être entrepreneur, de développer ma marque sur laquelle je suis en train de travailler avec ma sœur. Donc, c'est pour ça que... je vous le dis honnêtement, hein, même mon dernier boulot, mes revenus étaient plus élevés que ce que je gagne actuellement. Mmh. Parce que j'ai fait le choix, voilà, d'être à mon compte, d'être flexible, etc. Enfin, de pouvoir avoir cette liberté. Donc, je sais que demain, je trouve un bon poste de responsable marketing digital. Je vais gagner beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mais ça me va très bien. Ça me va très bien et comme je disais, moi j'ai cette liberté de pouvoir déjà faire ce que je veux, d'être sans stress à la fin du mois, de savoir que je peux payer mes factures, de savoir que je peux aller au restaurant, m'acheter des vêtements, etc. Mais bien sûr, mon objectif, c'est d'être vraiment à l'aise financièrement, c'est de pouvoir un jour investir à Dubaï, pouvoir acheter un appartement. Et aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas encore les liquidités pour pouvoir le faire.
Et c'est vrai que vous êtes passé d'un statut de salarié à entrepreneur. Et je trouve qu'on a souvent tendance à idéaliser le fait d'être son propre patron, même si y a beaucoup d'avantages à ça, comme par exemple le fait d'être plus flexible dans son emploi du temps, de mieux gérer son temps comme on le souhaite. Et je crois que c'est une des choses qui, moi, me pousse à rester encore dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de côtés sombres dont on entend peu parler. Et c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse. J'aimerais beaucoup en parler avec vous parce que j'aimerais savoir quels sont les changements de vie inattendus qui sont survenus comme ça suite au fait que vous êtes lancé à votre propre compte. Des choses peut-être qui sont difficiles à gérer et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. J'aimerais connaître la face cachée de l'iceberg.
Moi, je pense que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est la discipline. C'est moi, c'est ça qui est le plus difficile pour moi, c'est de me dire en fait, il n'y a personne qui va nous dire fais ci, fais ça. C'est à nous de se mettre une discipline, de se mettre un coup de pied aux fesses et de dire bon, voilà, aujourd'hui, j'ai ça à faire et ça doit être fait. Et c'est vrai que parfois, moi, ça m'arrive même là, en fait. Enfin, je devais tourner, typiquement, la course ce matin. J'ai vlogué, donc faire un vlog. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai pris ma caméra. Mais hier, j'étais là, oh, j'ai la flemme, je dois me lever tôt et en plus, je dois prendre ma caméra pour aller faire des trucs et tout. Et je me suis dit, non, t'as pas le choix, allez, tu le fais. T'as dit en plus aux gens que t'allais y participer, t'en parles depuis un mois, non, tu te motives et tu vas le faire. Et je pense que si j'avais pas cette discipline, enfin, il y a énormément de choses que je ferais pas, en fait. Ouais. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça qui est le plus difficile, c'est de ne rien lâcher, même quand tout va mal, même quand on fait pas d'argent, même quand on fait pas de vues. En fait, c'est de ne pas lâcher. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile.
Alors, Amel, on dit que Dubaï, c'est la ville des opportunités. Et j'aimerais savoir, vous, est-ce que le fait de vivre là-bas, ça vous a réellement ouvert des opportunités ?
Oui, c'est la ville des opportunités et c'est surtout au niveau des rencontres qu'on peut faire ici, au niveau du network, de pouvoir rencontrer en fait des gens qui ont le même mindset que nous, qui viennent ici pour voilà créer des nouvelles choses, créer des nouveaux business et rencontrer des gens qui ont le même mindset, ça va parfois nous donner des idées pour nous, pour nos business. Oui, c'est complètement une ville d'opportunités.
Par contre, il faut être actif, voilà, faut se bouger, aller à
Par
ces
contre,
événements et rencontrer les gens.
ah, exactement. En fait, je pense que c'est peut-être ça l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils attendent que ça leur tombe dans le bec, comme on dit. Mais non, par contre, il faut se bouger. Et ça, je le dis souvent. Enfin, quand les opportunités, elles viennent pas frapper à la porte, il faut construire une porte. C'est à nous, voilà, de se bouger, de faire des choses, parce que sinon, il va rien se passer, en fait. Enfin, il n'y a personne qui nous attend, vraiment.
C'est
Enfin,
clair.
Et je pense que ça, c'est aussi une erreur que beaucoup de Français font ici. Ils viennent, ils créent des business sans vraiment réfléchir parce qu'ils se disent, on est français, on va faire quelque chose de français, ça va marcher. Mais non, en fait, les gars, personne ne vous a attendu. Enfin, non, il faut être plus smart, il faut bosser parce que ici, c'est une ville de requins, vraiment. C'est une ville, les gens sont très carriéristes, les gens sont très bosseurs et il y a énormément de compétition. Donc, non, ici, il faut vraiment aller chercher les opportunités.
Depuis que vous êtes parti à Dubaï et que vous êtes installé là-bas, est-ce que votre regard a changé sur la France? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez différemment?
Ah, complètement. Donc, quand je vois comment ça se passe actuellement en France, oui, je me dis, j'ai bien fait de partir. Parce que, voilà, vivre confinement, reconfinement, couvre-feu, pas sanitaire, pas passe sanitaire, etc. Honnêtement, ici, on vit. En fait, à Dubaï, pour être très honnête avec vous, on vit dans une bulle. Vraiment, c'est une bulle dorée. C'est Disneyland. Vraiment, on ne vit pas dans le même monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentre en France, c'est un peu le retour à la réalité, qui est un peu brutal aussi parfois. Mais c'est là où aussi on se rend compte que la vie à Dubaï, elle sera pas pour toujours. C'est quand même une situation qui est très précaire, la vie à Dubaï. Je pense que c'est le principal inconvénient de vivre à Dubaï.
Vous
Et
pensez que vous reviendrez du coup un jour?
je suis pas. À l'heure actuelle, non, je pense pas. Mais je veux dire, dans les 3 prochaines années, je me vois pas revenir en France. Mais je suis pas fermée, pas du tout, à ne pas revenir. C'est très possible que je revienne un jour. Je ne suis pas fermée à ça. Mais c'est vrai que pour le moment, moi personnellement, je suis très bien à Dubaï et je compte bien développer mes projets ici pour les prochaines années.
Dites-moi, Amel, j'aimerais bien savoir qui vous inspire aujourd'hui.
Moi, c'est mon amie Sokona, qui est la créatrice de la marque SoCup, donc qui est une marque de cups et culottes menstruelles et qui est vraiment une femme incroyable, qui a un parcours incroyable et qui est une vraie girl boss. Elle était assistante sociale et puis elle a créé sa marque. Et aujourd'hui, voilà, elle est à la tête d'un empire et je la trouve vraiment impressionnante.
Et je crois que vous l'avez reçue d'ailleurs dans une de vos vidéos.
Oui, dans
Oui.
ma dernière vidéo, ouais, je l'ai reçue et vraiment un parcours vraiment incroyable. Et ensuite, bon, ça va être cliché, hein, mais ma maman aussi, qui est une femme incroyable que j'ai eu la chance d'avoir pendant mon événement quand j'ai lancé mon guide. Qui était là pour me soutenir et pour m'aider. Et vraiment, qui est une femme. J'aimerais bien l'interviewer un jour. Vraiment, elle n'est pas très à l'aise devant la caméra, mais c'est une femme qui est très, très sage et qui a vraiment toujours les mots et qui sait toujours quoi dire dans toutes les situations. Et je pense que ma sœur a beaucoup pris. Moi, je n'ai pas pris trop de ce côté-là de ma mère, mais c'est ma sœur qui a tout pris. Et du coup, ma sœur, voilà, elle tient ça de ma maman.
La famille, c'est quelque chose d'important pour vous.
Oui, la famille, ouais, c'est important, surtout d'avoir leur soutien et de savoir, voilà, ce qu'on fait, ça les rend fiers et pour moi, ouais, c'est vraiment important.
Alors, on l'a vu, Amel, vous avez tout de même une vie bien remplie. Est-ce qu'il y a de la place pour de la spiritualité dans tout ça? Ou au contraire, est-ce que vous n'êtes pas du tout quelqu'un de spirituel?
Suis quelqu'un de spirituel, j'aimerais parfois l'être plus parce que c'est vrai que, du coup, c'est. Quand on bosse beaucoup, on pense qu'à ça. Et les moyens de décompresser, ça va plutôt être les moyens pour sortir, voir ses amis, etc. Donc c'est vrai que parfois je délaisse un peu la spiritualité, mais c'est pour ça aussi que j'aime vivre à Dubaï. C'est que ça me rappelle justement, ça me rappelle certaines choses, certains devoirs que j'ai. Là, par exemple, je ne sais même pas si vous l'entendez, mais on entend l'appel à la prière, là, juste maintenant. On a eu pas mal. Il y a l'Éden, du coup. Donc, le fait de vivre dans un pays musulman, parce que, du coup, moi, je suis musulmane, mais le fait de vivre dans un pays musulman, ça m'a aussi rapprochée de l'islam sur certaines choses. J'adore le ramadan ici. Enfin, je trouve que c'est vraiment c'est un de mes mois préférés de l'année. Et en tout cas, j'essaye d'être spirituelle et voilà, de prier quand je le peux.
Ah bah du coup, c'est ce que j'allais vous demander. Comment ça se manifeste concrètement au quotidien dans votre vie ?
Alors ça se manifeste, alors je ne vais pas vous mentir, moi j'ai des périodes où je prie et des périodes où voilà, je délaisse un peu la prière. Ça va vraiment dépendre de mon emploi du temps, de ce que je fais, etc. Mais voilà, quand ça se manifeste, je prie. Parfois on va à la mosquée avec ma sœur, voilà, ça va se manifester comme ça.
En tout cas, merci beaucoup pour votre sincérité.
Bah, merci à vous, Manal.
C'est bien de pouvoir parler comme ça de plein de choses différentes, de spiritualité. Et puis au moment où on parle, il y a le Aden, voilà, qui est comme une sorte de rappel peut-être, je ne sais pas.
Exactement. Donc là, je vais aller faire mes invitations.
Ça arrive au bon moment. Mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir de pouvoir parler de ça avec vous. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui, Amel ?
Complètement. Et vraiment, aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans ma vie. Après, je ne vais pas vous mentir, hein, comme tout le monde, j'ai des phases down, j'ai des phases où... J'ai eu une terrible phase down, c'était juste après mon guide. Je viens de lancer mon guide, tout se passe bien, j'ai fait un superbe événement, je l'ai super bien vendu, que ce soit numérique ou papier. Mais les jours qui ont suivi, j'étais un peu déprimée. Et je pense parce que c'était la fin de ce projet. Et je me disais, maintenant, je fais quoi en fait ? Et il me fallait un nouveau projet pour être à nouveau remotivée, pour à nouveau avoir des objectifs. Donc, en fait, voilà, même quand on est au top, même quand on a tout, voilà, on a toujours des phases down et c'est normal. Et moi, voilà, j'en ai aussi. Mais aujourd'hui, je vous le dis vraiment avec sincérité, je suis vraiment épanouie dans ma vie, à tous les niveaux.
Ouais, mais je comprends totalement ce que vous dites. En fait, c'est ça, c'est comme une page qui se tourne, un chapitre qui se termine et du coup, on est là, ok, bon, du coup, je vais faire quoi ? Parce qu'on avait une sorte d'adrénaline vraiment très haute et ça part d'un coup comme ça. Donc, ouais, je comprends totalement. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, Amel, et de continuer vraiment sur cette voie-là.
Merci, Manal.
Mais vous le savez, Amel, ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête ?
Toujours.
C'est parti ! Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ?
Faire mon lit.
Quel est le dernier livre que vous avez lu ?
Everything is Fucked, a book about hope de Mark Manson.
Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ?
D'arrêter de boire des ice café latte.
Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime ?
Je commande un McDonald's et je regarde des séries sur Netflix.
Quel animal vous représente le mieux ?
Le chat.
Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ?
Quand ils parlent trop et que c'est décousu.
Quelle est votre plus grande peur ?
De ne pas faire du bon travail.
Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix ?
Une série de Noël norvégienne que je viens de regarder. Le nom, c'est Home for Christmas.
Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer ?
L'application InstaShop à Dubaï.
Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ?
D'acheter des chaussures de luxe.
Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ?
Le désert.
Quelle est votre plus grande folie financière ?
Un sac Chanel.
Quel est le métier que vous ne pourriez jamais exercer et pourquoi ?
Tout ce qui touche au service client parce qu'on doit gérer avec des clients mécontents et je sais que je ne serais pas capable de gérer ça.
Si vous aviez 100 euros et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous ?
Dans un NFT.
Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ?
La détermination.
Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ?
J'ai une capacité d'attention très limitée.
Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir?
Je sais que c'est pas bien, mais regardez mon téléphone.
Merci beaucoup, Amel, d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça nous a permis d'en apprendre davantage sur vous. Vous avez vu, c'est assez fun, hein, d'une autre manière. Et je sais aussi, Amel, que vous êtes une grande amatrice de donuts. n'est-ce pas?
Ah, ok. Est-ce comment que vous savez ça?
Mais je sais, j'ai fait mes petites recherches. Ah. Est-ce que vous avez une bonne adresse à nous donner pour des délicieux donuts à Dubaï?
À Dubaï, ouais, Il Donacino. Meilleure
comment
adresse. Il Donacino.
Il Donacino. Ah, j'aime bien, ouais. En plus, il y a une petite consonance italienne, c'est sympa.
Ouais, ça, c'est vraiment les meilleurs donuts que vous pouvez avoir. En plus, ils en ont des véganes et tout. Non,
ah, génial. Les donuts véganes, c'est vraiment mes préférés, personnellement.
Eh ben, la prochaine fois que vous venez à Dubaï, je vous emmène.
Ah, super, bah, j'ai hâte. Du coup, bah, je vais regarder les billets, là, après l'interview. je sais aussi donc, que vous avez publié votre guide. Donc, il existe en format numérique et papier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment on peut se le procurer?
Alors, on peut l'acheter exclusivement en ligne sur mon site internet. Je livre en France, en Belgique, en Suisse et aux Émirats Arabes Unis. Et voilà, donc il est disponible pour le moment exclusivement en ligne. Et là, normalement, début d'année prochaine, il sera aussi disponible sur Amazon.
Ah, super, génial. Et l'adresse de votre site?
Ameltalks.com.
Très bien. Et si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver?
Soit sur ma chaîne YouTube, donc Ameltalks, ou sur mon compte Instagram Ameltalks aussi. Donc c'est très simple, voilà, c'est Ameltalks partout. Donc,
partout,
très facile,
c'est simple, facile à retenir. Voilà. Merci Amel, en tout cas nous de notre côté on partagera tous les liens sur notre site lemanalshow.com. Je vous remercie encore beaucoup Amel Aitouche et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
Merci beaucoup Manal, c'était un plaisir d'échanger avec vous et je maintiens mon invitation pour Dubaï si vous passez un de ces quatre.
Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la plateforme que vous êtes en train d'utiliser actuellement pour écouter ce podcast, de laisser 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts ou un avis positif pour les autres plateformes, sans oublier de me laisser un petit message parce que oui, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Toutes ces choses m'aideront à être mieux référencée et à toucher un maximum de monde. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Sachez que vous avez un impact positif et immédiat sur ce podcast. Dernière chose, inutile de me chercher sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait le choix de les quitter il y a plusieurs années. Donc le seul moyen de rester en contact, c'est de vous abonner au club privé en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it was overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight.